Une émission soutenue financièrement par Jean Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto, Régis Forgione, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb. Bonsoir à tous. E-Teachers numéro 104.
Perdu.
Comment tu vas, Seb ?
Non, c'est pas ça. Ça va très bien. C'est le 103, mais tout va bien.
Ah mince. Je sais pas pourquoi, j'étais déjà en avance, tu vois. Bah, c'est comme ça. Comment tu vas, Seb ?
Ça va très bien. En ces temps troublés, ça va.
Bah oui, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. On en parlera peut-être dans une émission prochainement, un peu de tout ce qui se passe. Mais ce soir, on n'est pas seul. C'est ça qui est génial. En tout cas, on a un invité qui va se présenter dans un petit moment. Des nouvelles un peu sur l'émission précédente, Seb, tu avais regardé peut-être, ou moi j'ai pas eu le
non
temps,
alors j'ai pas eu de re- on n'a pas eu de retour particulier sur l'émission précédente, à part un de nos fidèles auditeurs de longue date qui, nous ayant découvert sur Twitch, a décidé de nous suivre. Donc sur Twitch, vous recevez une notification si vous nous suivez, mais par contre il faut avoir un compte Twitch pour ça, on vous prévient. À part ça, écoute, non, pas de nouvelles. Simplement pour dire deux mots sur notre invité, il y a longtemps, on avait parlé de ce qu'il fait sur Internet. C'est quelqu'un aux multiples activités numériques que l'on a fortement recommandé, notamment pour les gens qui ont peur ou craignent le numérique, voire pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête. C'est un peu le couteau suisse, je trouve, du numérique de son côté. On peut faire des tas de choses. Il est derrière des sites que nos auditeurs connaissent peut-être, on en a parlé, il y en a certains qui sont plus fameux que nous, hein, il est derrière Rallye Lecture, il est derrière Matero, il est derrière Classe Numérique, il est derrière Le Petit Bureau dont on a parlé tout dernièrement, tout ça regroupé dans monécole.fr, et on va lui dire bonsoir Laurent.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir à tous les deux, je suis ravi de partager ce moment avec vous.
Écoute, on est ravis de te recevoir, nous.
Tu as fait une petite introduction, mais peut-être que tu peux peut-être te présenter, Laurent, moi-même.
Oui, alors il a dit déjà pas mal de choses. Donc, je m'appelle Laurent Walter et en effet, je suis un ex-enseignant désormais qui propose en effet des différentes plateformes numériques pour aider les collègues de l'élémentaire essentiellement. Alors maintenant, je suis plus seul derrière tout ça, parce qu'on est deux, mais on aura sûrement l'occasion peut-être d'en parler plus tard.
Donc, tu en as parlé, c'était monécole.fr. Alors moi, je vais peut-être plus être, je suis moins au courant et moins fanboy que Seb, je pense, parce que je suis plus dans le second degré. Mais si tu présentes rapidement monécole.fr, qu'est-ce que c'est
Alors c'est, on va dire, c'est une plateforme numérique pour les écoles, pour les élèves et les enseignants, qui va proposer différents services. Alors en effet, comme le disait Seb, on est un peu couteau suisse dans le sens où on essaye de partager différents outils. Ce serait difficile de tout raconter là comme ça en une seule phrase, mais voilà, c'est des outils sur différents domaines qui, on espère, rendre service au quotidien aux enseignants, que ce soit des choses pratiques, comme un cahier de texte ou des choses comme ça, et des outils plus élaborés, plus disciplinaires, comme Matero en mathématiques, par exemple.
Alors, justement, donc tu as dit que tu étais un ancien enseignant, tu étais en classe. Moi, j'ai envie de te poser une première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à l'autre côté, en fait, de créer, en fait, d'aider les enseignants comme ça ?
Au final, je n'ai pas l'impression d'avoir passé la barrière au moment de créer, parce qu'en fait, au début, j'étais simplement un enseignant comme les autres qui élabore un peu sa pratique de classe, qui cherche des choses qui existent, et puis quand il ne trouve pas ce qu'il souhaite, il essaye de le créer, tout, de le bricoler au départ, un peu comme tout le monde. Et ce qui a changé un peu ma vie à ce moment-là, c'est que j'ai essayé de partager le travail que j'avais fait au départ avec les autres enseignants. Et ayant des retours très positifs à ce moment-là, ça m'a encouragé. Donc j'ai d'abord en fait, simplement tenu un blog enseignant pendant quelques années, qui s'appelait déjà monécole.fr. C'était simplement un blog de ressources pédagogiques où je partageais mes séquences, mes documents. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé un premier outil numérique qui s'appelle Rallye Lecture. Et ça me prenait de plus en plus de temps. Et en fait, au fur et à mesure, une passion, une occupation du soir ou de la nuit est finalement devenue un travail à plein temps, le jour désormais. Donc voilà, en quelques mots, le parcours.
Oui, en définitive, tu sais, tu rejoins pas mal nos invités d'il y a peu, nos deux confrères Charlotte et Gwenolé. Un petit coucou et du move. Quand tu dis... J'ai commencé simplement à partager. Ça a commencé comme ça pour eux aussi. Tu as parlé de Rallye Lecture. Moi, c'est là que la première fois que j'ai entendu parler de ce que tu faisais. À l'époque, c'était par ma collègue Véronique qui me disait « Oh, attends, il y a un truc super, c'est Rallye Lecture. » Alors, on ne va pas expliquer, mais en gros, c'est la version numérique des Rallye Lecture qu'on connaît tous. Pour ce genre de site, à un moment, tu permettais aux collègues de collaborer en contribuant à enrichir la base qui était présente, combien comptes-tu d'ouvrages, à peu près ?
Oui, oui. Alors, juste avant de répondre, je vais juste rebondir sur Edumour. En effet, je vous ai écouté, pas la semaine dernière, mais la dernière émission, émission très intéressante, et je salue en effet les copains d'Edumour, qui, pour le coup, m'ont bien aidé, m'ont même poussé au départ à sauter le pas un petit peu de tout ça, parce que je ne m'imaginais pas un jour pouvoir vivre de ce que je faisais. Donc c'est grâce à eux également, parce que on a très vite sympathisé, ils ont le même esprit que nous, donc voilà. C'était pour la petite aparté. Pour revenir sur Rallye Lecture, en effet, on l'a voulu dès le début un peu collaboratif, et donc les collègues peuvent proposer des questionnaires sur les livres, et on est très heureux, parce qu'aujourd'hui on a plus de 30 000 livres qui sont référencés. Donc ça permet, plus il y a de livres et plus les collègues vont pouvoir simplement retrouver les livres qu'ils ont eux-mêmes dans les classes. On sait que ce n'est pas facile d'acheter chaque année des nouveaux livres. Donc le plus intéressant, c'est qu'on prenne ce qu'on a dans la BCD, ce qu'on a à la bibliothèque du village et qu'on les retrouve quasiment systématiquement désormais sur le site.
Tout à fait, tout à fait. Jeff, Rallye Lecture, ça va jusque-là ? Ah, il a oublié de remettre son micro.
Coupé, oui, voilà. Oui, impeccable.
Bon, très bien.
Très bien. Alors, le deuxième site, et là, c'est un fan qui parle, c'est Matero. Alors, moi, je suis un peu fan, mais mes élèves encore plus encore. Comment est-ce que tu as conçu cette idée, ce site ? Tout le monde a connu les exercices de calculeur mental, mais le tien a une touche de fun en plus. Comment c'est arrivé ?
Alors, difficile de dire précisément comment c'est né. Il avait un petit frère Matero qui s'appelait Multix un certain temps. C'était, comme souvent, là, au départ, un outil gratuit. C'est un peu inspiré de ce que j'aimais en classe également, les ceintures de compétences, c'est-à-dire le principe d'avoir des élèves qui vont pouvoir progresser un petit peu au fur et à mesure, chacun à son rythme, selon les réussites et les difficultés de chacun. Et donc, ça, c'était le préambule, mais des ceintures, ça peut rester très, très scolaire. On a voulu simplement apporter ce que le numérique sait faire, c'est-à-dire un peu plus d'interaction entre l'utilisateur et le contenu. Donc, on a essayé d'enrober tout ça dans un univers qui peut plaire aux élèves. Pour le coup, on est très content des retours qu'on a par rapport à ça. Donc, en effet, c'est pour expliquer le contexte, on est un peu dans un monde de super-héros et les élèves doivent comme ça réussir des missions de super-héros, et en réalité, ils travaillent sans cesse sur des notions de calcul mental. Donc voilà, c'était l'envie d'utiliser les ressources numériques. Quand on utilise le numérique, on pense que on ne va pas simplement refaire un manuel, mais à lire en ligne. Donc le but, c'est vraiment de tirer parti de ces technologies-là, donc on a essayé de le faire en faisant des petits jeux, en quelque sorte.
Et alors, je vais peut-être prendre un peu d'avance par rapport à une question que j'avais, mais qui me taraude, tout ce qui est partie graphique, est-ce que c'est toi aussi qui t'en charge ?
C'est moi. Alors, comme on est deux pour l'instant, il y a de fortes chances que ce soit moi, soit mon collègue à chaque fois. La partie graphique, c'est moi qui m'en charge. J'ai toujours aimé ça. J'ai pas de toute formation là-dedans, donc c'est surtout du bricolage essentiellement. Après, pour les images, on est souvent sur un abonnement d'images qu'on a, et après, on peut, avec du vectoriel, on peut facilement les modifier, les mettre à notre sauce. Donc souvent, le processus, c'est ça. Je crée intégralement des images assez rarement. Donc généralement, c'est plutôt de la bricole en associant tout ce que je peux trouver. Toujours des images dont on a le droit d'utiliser, bien sûr.
Alors, pour ceux qui n'auraient jamais jeté un coup d'œil à Matero, comment vous dire ? C'est un très bon bricolage avec une vraie charte graphique, même s'il ne crée pas toutes ces images. C'est unifié, c'est très beau. Si vous avez en tête les exerciceurs avec des images un peu vieillottes, balayez tout ça de votre mémoire. Là, vous avez un produit de son époque, très propre. Alors, on a parlé Matero, on a parlé de Rallye Lecture. Il y en a un dont on avait parlé il y a, et c'était Sébastien l'Américain qui en avait parlé. C'était l'ancêtre du service actuel qui s'appelle Classe Numérique. J'aimerais que tu nous en dises deux mots sur ce que c'est.
Alors, Classe Numérique, en effet, alors c'est une nouvelle version qui a vu le jour un peu de façon précipitée durant le premier confinement. Classe Numérique, c'était un site qui était gratuit depuis de nombreuses années, qui permettait en fait de faire des plans de travail. Alors, c'est né encore très simplement. Je faisais des plans de travail dans ma classe version papier, comme beaucoup font encore actuellement. Les plans de travail, c'est-à-dire les élèves ont des travaux à faire et puis après ils les font à leur rythme, etc. C'était assez chronophage en tant qu'enseignant pour créer les exercices et surtout pour les corriger, de longs mercredis passés à faire que ça. Donc le but, c'était encore une fois de faciliter le travail pour l'enseignant et puis d'apporter une touche avec un peu plus de motivation pour les élèves. Donc en gros, c'est un exerciceur, pour faire très simple. Encore une fois, la collaboration qui est possible, parce qu'on a beaucoup d'enseignants qui partagent leurs propres exercices. Il y en a, en 6 mois, il y en a déjà eu 150 000 créés. Et donc c'est ça, le but, c'est de sélectionner les exercices qui nous intéressent et puis les proposer très facilement aux élèves. Notre leitmotiv, en quelque sorte, c'est que côté élève, le but, c'est que ce soit le plus simple possible. Autrement dit, un élève qui se connecte, il doit tout de suite il doit savoir ce qu'il doit faire, où il arrive, et sans se poser trop de questions, sans faire trop de clics inutiles. Donc, on essaye d'épurer au maximum ça côté élève. J'espère qu'on y arrive parfois. Et voilà.
Alors, je vais répondre à ta question. Je trouve que votre épuration est très finement faite et très efficace. Il y a une vraie simplicité, et ça dans le très bon sens du terme. Si on connaît un petit peu, on connaît la machinerie qu'il peut y avoir derrière, et pourtant, dans ce que l'on voit, on a une apparence très simple. Si tu me passes la comparaison, c'est un peu comme quand tu prends un iPad, tu as des tas d'applis qui ont une apparence simple et des fonctionnalités qui peuvent être très poussées.
Oui, mais c'est gentil, c'est le but vraiment recherché. L'ergonomie sur le web, c'est ça, c'est-à-dire chaque clic doit être pesé, donc on essaye de se mettre à chaque fois à la place des élèves. C'est en ça que je pense qu'être enseignant, ça nous aide, parce qu'on se rend peut-être plus facilement compte de ce que les élèves savent faire instinctivement et de ce qui sera plus lourd à gérer pour eux. Donc on essaye vraiment, la priorité, c'est d'une, que ce soit joli, comme tu le soulignais tout à l'heure, on essaye de faire le maximum pour ça, que ce soit plaisant à l'œil, et puis que ce soit simple à utiliser, sans non plus restreindre trop les possibilités pour l'enseignant. Donc c'est toujours un mix par rapport à ça.
Donc là, il y a plusieurs services. Donc moi, il y a Matero, Classe Numérique, etc. Mais en fait, ils sont tous imbriqués, ces services, ou il faut chaque fois avoir un compte différent par service ?
Non, ils sont tous imbriqués. Ils ont tous un site indépendant. C'était important. Alors déjà, parce qu'en fait, on les a construits au début. Je ne pensais pas qu'on serait une société un jour. Donc, je crée un outil. Du coup, je crée un site pour le faire. Et donc, ils ont tous un nom de domaine, on va dire, séparé. Et ça, on le garde parce que c'est assez pratique pour un enseignant qui veut utiliser que Rallye Lecture. Et on a beaucoup d'enseignants qui, pour l'instant, depuis le début, ils nous suivent sur Rallye Lecture. Ils n'utilisent que ça pour l'instant. Et donc, c'est très simple pour eux. Ils vont sur Rallye Lecture. Les élèves n'ont que ça. Ils n'ont pas d'autres distractions. Ils ne voient pas d'autres possibilités. Par contre, on a créé depuis l'année dernière donc le petit bureau, ça s'appelle. C'est sur mon école. Et justement, le but, c'était un petit peu d'harmoniser tout ça pour que, avec le même compte, tous les enseignants et les élèves puissent accéder sans avoir à se reconnecter systématiquement, accès à tous nos outils. Et on en a profité du coup pour en faire une plateforme qui permet d'intégrer également d'autres contenus numériques, d'autres éditeurs, et puis d'autres petits services au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose qui est gratuit. Le but pour nous, c'était surtout de faire un outil qui va simplifier l'accès au contenu numérique pour les classes.
Ouais. Donc, si je comprends bien, c'est l'enseignant qui crée son compte et qui importe les élèves et les parents, puisque je vois que les parents aussi sont à l'intérieur aussi, c'est ça?
Alors, on n'a pas d'accès parents. En fait, c'est surtout tous les outils sont surtout enseignants-élèves. Après, sur le petit bureau, comme maintenant, on intègre de nouveaux outils comme le cahier de texte, le cahier de liaison, etc. Les parents vont utiliser avec leurs enfants l'outil pour pouvoir comme ça échanger. Mais c'est tout via un accès élève. Il n'y a pas un accès spécialement pour les parents. Les parents s'inscrivent jamais, en fait.
D'accord. Donc, c'est vraiment l'enseignant qui fait la démarche de s'inscrire sur le site.
Tout à fait.
D'accord.
Et ça nous permet d'avoir... Pardon.
Dis-moi.
Vas-y. Non, ça nous permet du coup de collecter très peu d'informations, notamment par rapport aux parents, tout ça. C'est-à-dire que l'enseignant, il crée simplement une liste d'élèves avec les prénoms, ou certains font même un pseudonyme. Et c'est tout. On n'a aucune autre information, ni sur l'élève, ni sur les parents. Donc ça reste le plus simple possible par rapport à ça.
Et là, ta communauté, ce sont des enseignants qui s'abonnent, parce qu'il y a quand même un business model d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un enseignant qui va se créer le compte, ou c'est une école, ou c'est, je sais pas, une circonscription
Alors, je sais pas, voilà. Ça part toujours d'une volonté de l'enseignant. Quand on essaye d'analyser un petit peu tout ça, maintenant on a beaucoup d'écoles qui ou quasiment toutes les classes utilisent nos outils, ou pas tous nos outils, mais certains de nos outils. Mais initialement, c'est plutôt un enseignant qui est moteur, ça se passe souvent comme ça dans les écoles, qui découvre l'outil parce qu'il est curieux de tout ça, et qui, si ça lui plaît, il va pouvoir le faire découvrir à ses collègues. Sachant que nous, sur les sites, il n'y a que des comptes enseignants individuels. On n'a pas vraiment de compte école. Il y a moyen, quand on est une école, ensuite de regrouper les comptes pour faire simplement un seul paiement, par exemple, pour simplifier la gestion. Mais c'est vraiment chaque enseignant qui est indépendant et qui a son propre compte. Donc, voilà.
D'accord. C'est vraiment de l'enseignant.
Alors, justement, Jeff, tu es venu sur le terrain du petit bureau. Alors, certes, ça permet de regrouper les services comme Matero, Rallye Lecture, mais j'aimerais... Parce qu'on en a parlé ici, et c'est quelque chose de super intéressant. Tu as l'aspect widget sur le petit bureau avec des tas, comment dirais-je, de services qu'on irait chercher chacun sur un service différent et qu'on va retrouver là. Est-ce que tu as une idée des services que tu as mis en place là-dessus et qui sont très appréciés par la communauté enseignante?
Alors, dernièrement, il y a eu de nouveaux ajouts parce qu'il y avait des nouveaux besoins, notamment dans la période un peu troublée actuellement. Donc, tout ce qui va servir de communiquer avec les élèves à distance est très apprécié. Donc, que ce soit le cahier texte, le cahier de liaison pour discuter avec les élèves ou les parents, l'actualité de la classe, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des nouveaux widgets qu'on retrouve généralement dans un ENT. Nous, on s'appelle pas forcément ENT, même si on en reprend un petit peu les grandes lignes. On essaye... On ne va pas forcément aussi loin qu'un ENT, c'est-à-dire on n'a pas autant de possibilités, j'imagine, que d'autres à ce niveau-là. Mais c'est aussi notre volonté, alors, que ça reste gratuit déjà dans un premier temps et que ça reste très simple. Donc, par exemple, on a un widget vidéo partagé. C'est pour permettre de donner accès facilement à une vidéo de YouTube à ses élèves, parce qu'on n'a pas envie de dire aux élèves « Ah ben la chanson qu'on a entendue, si vous allez sur YouTube, vous tapez ça, puis vous allez la voir. » Sauf qu'entre-temps, il y aura eu des publicités, il y aura eu plein d'autres contenus qui lui seront proposés. Donc ça va permettre simplement de mettre une vidéo épurée, sans publicité, et intégrée directement sur le site. Ça pourrait être plus complet, on pourrait permettre aux enseignants d'enregistrer plusieurs vidéos, de faire une arborescence, de les sortir plusieurs à la fois. Ça compliquerait beaucoup l'interface côté enseignant. Donc là, c'est simplement, en un clic, on colle le lien et c'est terminé. Donc, cette limite qui est une volonté au départ peut être un frein pour développer des fonctionnalités très compliquées. Mais voilà, pour l'instant, c'était un exemple parmi d'autres, hein, cette histoire de la vidéo. Mais voilà, c'est des fonctionnalités limitées qui, pour moi, semblent suffisantes parce qu'on s'adresse uniquement au primaire et qu'on ne vise pas le secondaire. Désolé pour le secondaire, mais on connaît surtout le primaire et donc on préfère faire avec nos petits moyens, parce qu'on est quand même une toute petite équipe, faire des choses simples pour un public réduit que vouloir conquérir l'ensemble de l'éducation qu'on ne connaît pas et qu'on ne saurait pas satisfaire.
Oh, puis tu peux garder ça pour plus tard.
C'est d'ailleurs, hein, c'est ça que tu dis. Tu n'as pas présenté ton collègue, mais tu en as juste parlé un petit peu.
Oui, donc alors il n'est pas là, il n'est pas là aujourd'hui. C'est Anthony, alors c'est mon beau-frère à la base, le frère de ma femme. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement parce qu'au début, donc, comme je le disais, je bricolais mes outils numériques. Et donc lui, il est développeur. Il était développeur dans un grand groupe. Et donc, il m'aidait quand j'avais un petit peu de mal à faire ce que je voulais. Et puis, tout naturellement, à force de me voir l'appeler le soir pour lui demander des conseils, quand il a été question d'aller plus loin et de sauter le pas, ça s'est fait avec lui. Donc, pour l'instant, on n'est que deux. Moi qui m'occupe plus du contenu pédagogique, de la communication, des dessins, etc. Et lui qui développe toutes les fonctionnalités. Donc, depuis quelques années maintenant, c'est vraiment lui qui a les mains dans le cambouis. Parce que moi, j'ai juste quelques bases en programmation et donc c'est lui qui fait que tout ceci est possible.
Quelques bases en programmation, on ne doit pas avoir les mêmes quand même. Parce que là, pour avoir essayé tes outils, il y a quand même un peu de code. Qu'est-ce que tu as comme formation ?
Non, moi, pour le coup, c'était vraiment du bricolage. Mais les outils qu'on a maintenant, il n'y a plus grand-chose qui reste de mon code au départ. C'était les outils, tant qu'ils étaient gratuits, les outils c'était basé sur du WordPress avec des plugins dans tous les sens pour essayer de faire ce que je pouvais. Donc c'est vraiment la bricole que je suis sûr toi tu pourrais faire également de ton côté. Et donc maintenant ça a tout été réécrit au fur et à mesure. Mais voilà, donc j'ai juste quelques connaissances.
D'accord. Bon, c'est encore plus impressionnant si tu veux mon avis. Est-ce que Jeff, tu as une question ?
Non, je voyais un peu de regarder un petit peu le site pour voir parce qu'on a parlé de quelques outils. Je vois qu'il y en a d'autres encore, donc je sais pas si tu voulais aborder ça, Seb.
Non, franchement, je voulais juste faire un gros clin d'œil parce que je l'ai utilisé pas plus tard que la semaine dernière pour ton adaptation du jeu des petites poules sous forme du jeu des pirates. Et ça a été pour une révision à la volée dans la classe, c'est vraiment pratique. Si vous avez un vidéo projo, c'est un moment de plaisir. Et pourtant, moi, j'avais révisé de l'histoire sur un segment qui n'était pas très glamour. Mais voilà, bravo. Sur les outils, tu en as parlé tout à l'heure, et c'est quelque chose. Par exemple, Edumove nous en avait parlé pendant le confinement. Ça avait été quelque chose de dur, mais de très profitable pour eux, parce qu'ils avaient pu faire en direct des choses et voir des choses qui étaient invisibles normalement. Et du coup, ça leur avait été profitable et qu'ils avaient fait des évolutions en ce sens-là. Est-ce que tu tires le même enseignement qu'eux ou est-ce que ça a été seulement compliqué ?
Alors, ça a été compliqué. Assez clairement, j'ai la chance et je la remercie ce soir que ma femme ait pu s'occuper plus précisément de l'école à domicile pour nos deux filles qui étaient avec nous. Parce que pour le coup, on a vraiment été submergés. Alors, j'imagine comme d'autres. À la différence que, comme on n'est que deux, toute charge de travail a été difficile à encaisser. Me concernant, moi qui suis au support, donc c'est moi qui reçois les messages des différentes personnes. Et comme on a la chance quand même d'avoir eu beaucoup de nouveaux enseignants à ce moment-là, pour nous, voilà, on ne va pas se plaindre du tout parce que c'était quelque chose qui nous a permis de nous faire connaître, tous les enseignants qui n'avaient pas l'intention d'utiliser le numérique parce qu'ils n'en ressentaient pas le besoin. Ils ont eu soudainement cette nécessité de trouver des outils. Donc si on a pu aider certains dans ce sens-là, nous on en est très contents. Et donc voilà, donc on était très contents que de nouveaux enseignants viennent chez nous. Ce qui a été très compliqué, c'est que voilà, moi j'avais plus de 1000 mails par jour à répondre. Quand je dis par jour, c'était par nuit. Et puis Anthony, le site tombait environ toutes les nuits. Donc toutes les nuits, il passait la nuit à essayer de le remettre sur pied et de déployer de nouveaux serveurs, etc. Donc ça a été compliqué à gérer, mais au final, c'est une bonne expérience parce que voilà, on a été confronté à quelque chose. En gros, on est passé, si j'ai les chiffres en tête, Dans les périodes un peu fastes précédentes, on avait 1500 personnes en même temps, c'est-à-dire en gros 1500 personnes qui vont cliquer sur un bouton pour générer quelque chose sur le site. Et là, on était passé à quasiment 20 000 par jour. Donc du coup, ça faisait beaucoup de requêtes tout le temps, donc on n'était pas préparé à tout ça. Et finalement, on a pu améliorer les outils. Alors d'une, pour répondre aux nouveaux besoins qui se sont fait ressentir, comme la création d'un cahier de liaison, etc., qui est nouveau. Ça faisait longtemps que les enseignants nous disaient que ce serait pratique. Ça fait longtemps qu'on leur disait, dès qu'on peut, on essaye de le faire. Là, on n'a pas eu le choix, donc on a fait tout ça en priorité. Donc oui, c'était une période particulière, mais qui s'est bien terminée au final.
Et d'après toi, les enseignants qui se sont lancés dans le numérique, c'était juste pour ou c'est vraiment, on peut surfer là-dessus? Est-ce que les gens continuent un petit peu à surfer sur le numérique?
C'est difficile. Je pense quand même que ça, il y a eu pour certains une prise de conscience que, ben, une fois qu'on l'a utilisé, on se rend compte que ça peut nous rendre des services. De là à utiliser tout le temps, je pense qu'il y a pas mal d'enseignants qui se disent oui, ça peut rendre des services, mais je m'en sors très bien sans, ce qu'on peut entendre. D'autres qui, voilà, on a quand même beaucoup de retours qui nous disent qu'ils nous ont découvert, qu'ils pensaient pas que ce genre de choses pouvait exister et qu'au final, quand on y a goûté, on se rend compte que c'est intéressant. Donc voilà, je pense que certains vont continuer. En tout cas, tout le monde, ça a mis un peu la lumière sur l'intérêt du numérique. J'espère que forcément, ça va continuer. Nous, on essaye de faire tout pour que les outils soient améliorés et que ça convainque de nouveaux collègues de venir vers nous.
Alors, on espère. Est-ce que tu aurais une idée du nombre de personnes qui sont restées sur tes outils après le confinement, qui ont gardé, on pourrait dire, qui sont restées avec toi?
Là où on n'est pas très fort, je pense, c'est que tout ce qui est, on va dire, les statistiques, voir le comportement des utilisateurs, tout ça, on fait rien de tout ça. Donc on fait un peu au feeling, au retour qu'on a dans les mails, etc. Donc je ne saurais pas vraiment... quantifier, je pense qu'on a de nouvelles classes, on a plus d'abonnements école, on va dire, cette année. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup d'enseignants de façon indépendante ou de classe. Là, on a eu quand même plus d'abonnements où les écoles entières s'inscrivaient à nos services. Bon, je pense que c'est ça qui peut peut-être changer.
Et pourquoi je sais pas, est-ce que ça n'existe pas? Pourquoi des communes, des académies ne pourraient pas, voilà, financer ce genre d'outils, puisque ça existe dans le secondaire? J'ai l'impression que c'est, dans le primaire, c'est encore...
Oui. Alors, la plupart du temps, maintenant, nous, c'est quand même les mairies qui payent, parce qu'en gros, sur le site, il suffit que l'enseignant choisisse le mode de paiement mandat administratif, et ensuite, c'est un bon de commande envoyé à la mairie, c'est la mairie qui gère ça... pour les enseignants, qui règlent ça dans le budget pédagogique. En revanche, contacter les académies, etc., je pense que pour le coup, c'est un boulot à temps plein. Donc si on était plus nombreux, ce serait sûrement intéressant. Et puis moi, je ne saurais pas leur parler à tous ces décideurs et monter des dossiers. J'aime bien passer du temps à faire des outils et que ça... Un petit widget comme ça qu'on développe, ça nous prend quelques dizaines d'heures, par exemple. Ça va tout de suite rendre service à plein d'enseignants et c'est ça qui va peut-être le convaincre d'utiliser nos outils. Donc, on préfère passer le temps à faire ça plutôt qu'à essayer de contacter des académies qui sont un peu lointaines parfois.
C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un manque quand même d'outils. Donc,
pardon, voilà.
C'est là qu'on se rend compte qu'il manque vraiment un outil, vous voyez, pour se faire connaître, etc.
Oui, on mise surtout sur le bouche à oreille et pour l'instant, ça nous suffit. On s'installe. Alors, grâce au confinement, peut-être, on est plus serein sur l'avenir. On sait qu'on sera encore là cette année, sûrement l'année prochaine, parce qu'on a atteint un certain seuil où on arrive à se payer tous les deux. Donc, du coup, maintenant qu'on est serein, on va pouvoir prendre le temps de développer encore plus les outils. Et on n'a pas de nouveaux outils prévus qui vont sortir. On va plutôt améliorer maintenant tout ce qu'on a déjà créé.
On a parlé un petit peu du côté financier. Est-ce que cet aspect-là a été difficile pour toi, à titre psychologique? Tu as dit, c'est simplement partage au début, et le pas qui consiste à faire payer les collègues a été quelque chose de compliqué.
Alors, ça, c'était nécessairement la partie la plus difficile. Ne serait-ce la manière dont tu l'as formulé, faire payer ses collègues, dit comme ça, c'est ça fait bizarre encore aujourd'hui. Après, on a vraiment la chance que les enseignants, alors pour certains, et je dirais même la plupart, nous connaissent depuis longtemps et savent un petit peu d'où on vient. Donc, on est très heureux parce que une école qui vient de payer, le petit mot qui accompagne le paiement, c'est généralement merci pour tout, continuez à faire des outils qui ressemblent à nos besoins, etc. Donc quand on a ça, voilà, on se pose moins la question, on culpabilise moins de dire bah, on est passé de l'autre côté de la barrière et maintenant on est des marchands. Et pourtant, on doit l'être un petit peu parce qu'on a besoin d'avoir des abonnements payants pour qu'on puisse continuer à faire ce qui nous plaît. Et pour l'instant, on a la chance de pouvoir le faire à temps plein. Donc il y avait forcément ce petit doute au début de se dire est-ce que vraiment on a envie de créer des outils qui vont être payants systématiquement. Donc on essaye de garder un équilibre. On a des outils qui sont gratuits et qui resteront gratuits. C'est le cas du petit bureau. On a mon B2I, des choses comme ça qui sont gratuits. Donc on essaye de garder ça, mais malgré tout, il y a des contenus qui sont payants. On n'a plus pas le choix désormais, mais on est très heureux que les enseignants comprennent que on fait des prix les plus petits possibles. En tout cas, j'ai l'impression par rapport à ce que nos besoins jusqu'à maintenant. Donc j'espère que tout le monde comprend ça, et pour l'instant, je crois que c'est le cas.
Je te pose la question parce que c'est un reproche qui a été fait parfois à d'autres, mais sincèrement, les tarifs que vous pratiquez, sont franchement acceptables, et surtout, c'est surtout si tu veux, moi quand je prends un service comme le tien, quand je m'y abonne, j'aime avoir cette tranquillité qui consiste à me dire la boîte ne va pas craquer en cours d'année. Parce que leur business plan était mal calculé, mal assuré. Là, tu l'as dit, vous avez quelque chose qui a l'air serein. L'important, c'est que vous y trouviez aussi votre compte, parce que tout service sur le net implique une dépense.
Oui, c'est ça. Ben, voilà, on est content de pouvoir... Les abonnements nous suffisent à vivre. On n'essaie pas de chercher d'autres financements par ailleurs. Donc, on va citer personne, mais on n'a pas essayé de lever des millions d'euros. Et on n'essaye pas de... Mais on est... ben, non, mais... Concrètement, je pense à EduMove qui, comme nous, on a construit les choses petit à petit. Donc, je pense que c'est ça qui fait que l'outil, comme tu dis, reste. Voilà, il évolue petit à petit, il évolue à la vitesse qui peut évoluer. Et on garde les tarifs qui resteront bas. On reste sur ce modèle-là. Quoi.
Ouais. Et tu. Vas-y, excuse-moi, Jeff.
Non, j'étais en train de naviguer encore sur le site. Je vois qu'il y a aussi des jeux physiques, je vois, là. Tu n'en as pas parlé.
Je le gardais pour la fin.
Là. Ah, pardon. tu l'as pas évoqué, là.
Eh bien, si je peux en dire deux mots, si jamais, j'ai toujours aimé jouer en classe. Et en fait, c'était à la base, c'était mon petit plaisir de me dire et si on faisait, un jeu. Parce que j'ai toujours fait des jeux en classe. Alors maintenant, avec le recul, je me rendais compte qu'ils étaient un peu minables. Alors, ils sont toujours sur le blog, donc ils sont sûrement encore un peu utilisés. Non, mais disons que c'est les jeux que, voilà, qu'on pouvait faire sur OpenOffice, voilà, c'était des cases, des questions, et c'est parti. Et pour le coup, ça marchait très très bien en classe, et j'étais très heureux de les faire. Mais voilà, le fait d'être dans cette posture-là désormais, ça m'a permis de me poser de nouvelles questions, et puis d'utiliser de nouveaux outils pour créer vraiment des vrais jeux. Donc ça a été un petit pari au début. On avait fait un crowdfunding à l'époque, pour voir si ça pouvait intéresser les enseignants de pas imprimer une fiche A4 avec des questions, et plutôt d'acheter un jeu pour sa classe, et on a eu des bons retours. Pour l'instant, on touche du bois, on a toujours des bons retours, donc et on aura sûrement besoin de quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qu'on se dise, bah, il faut peut-être qu'on arrête de vouloir se faire plaisir, parce que les jeux, voilà, c'était pour me faire plaisir à la base, et on a des bons retours, alors ce n'est pas ce qui nous fait le chiffre d'affaires pour le coup, hein, on vend des petites unités, mais comme on a des bons retours et qu'on est très content de les faire, on va continuer. Là, très prochainement, on va essayer. Alors, j'ai écrit très modestement un livre que j'aimerais proposer, mais encore une fois, pour moi, c'était un rêve de gamin de pouvoir faire ça. Si ça se trouve, ça ne fonctionnera pas, parce que peut-être que ce n'est pas bon, je ne sais pas. Mais voilà, pour l'instant, on peut se permettre de créer des nouvelles choses et de se faire plaisir. Donc après, on verra.
On se demande quand est-ce que tu dors, par contre. Parce que là, c'est quand même super riche, quoi. Entre
comme je ne suis plus en classe, le fait de ne pas être en classe, maintenant, j'ai tout mon temps libre. Sûr, avant, c'était mon temps libre, et maintenant, c'est mon travail. Donc, c'est un peu un rêve éveillé, hein, de pouvoir faire ça pour l'instant.
Comme c'est riche, surtout à deux. Voilà. Je me dis qu'on est deux, vous êtes deux derrière. Voilà. C'est assez impressionnant. Ouais.
Et alors, je vais rajouter un petit quelque chose, parce que déjà, tu as eu un prix pour tes jeux.
Ça, on était content. On était content.
Ah ouais, il a eu un flip. Et en plus, je vais dire un truc sur ces jeux. Moi, alors, en classe, j'ai pu essayer les numériques cartes. Voilà. J'ai aussi essayé le jeu sur les multiplications. C'est efficace. Voilà, c'est efficace. C'est pas, il y a un bon équilibre trouvé entre complexité de la règle pour les numériques cartes. La règle elle est super simple et.
Alors quand pour je coup, il y a une réelle différence entre les deux types de jeux, numériques cartes et multi-héros. C'est pas du tout. Ouais.
Voilà. Là, pour expliciter parce que moi je suis perdu là.
Non mais attends, j'y viens. C'est-à-dire que numérique carte, le principe de base, il est tout simple. Il faut placer une carte au bon endroit sur une file numérique. Voilà, c'est tout simple, sauf que bien sûr les représentations vont changer, que la correction elle est immédiate parce que tu retournes la carte. Même mes élèves, j'ai testé la semaine dernière, mes élèves en 5 minutes d'explication, ils avaient compris, je les ai laissés en atelier tranquillement. Voilà. Après, multi-héros, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'explications derrière, mais dans l'idée, les gamins, nos élèves, ils font des maths et ça leur plaît. Voilà. Enfin, moi, c'est le retour que j'ai en classe, c'est que ça plaît, ils me les demandent même en dehors des trucs, et j'ai vu les retours que tu avais sur Twitter, il n'y a pas que les miens qui font ça. Donc quand même, je pourrais te qualifier d'un peu modeste depuis tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose. Ouais.
Je ne suis pas sûr, mais... Non, mais c'est. Je pense surtout qu'on nous a donné l'occasion de faire ça parce que voilà, maintenant quand on sort quelque chose, les gens relaient ce qu'on fait et donc ça devient plus facile. Je suis sûr qu'il y a plein de bonnes idées qui sont encore dans les tiroirs de plein d'enseignants. D'ailleurs, j'en profite, hein, je lance un appel. Si vous êtes enseignant et que vous avez des bonnes idées, nous on serait ravis de pouvoir voilà permettre d'émerger des projets qui viennent des enseignants eux-mêmes, donc que ce soit maintenant qu'on peut tout faire, des livres, des jeux, quoi que ce soit. Voilà, ce serait intéressant. Les enseignants, on est avant tout des créateurs, je pense. On crée tous pour sa classe. Donc, quand on fait quelque chose d'un peu différent et que ça nous prend du temps, c'est toujours intéressant d'essayer de le soumettre, je pense, aux autres.
Oui, là, le côté créateur plairait à Fabien Aubard, qui parle du côté artisan des enseignants dans Nipédu de temps en temps. Justement, on va revenir à un petit quelque chose. Pendant le confinement, quelques tweets ont paru pour manifester le fait que tu as aidé pas mal d'enseignants avec les services qu'il y avait sur monécole.fr. Et j'en ai vu quelques-uns qui en appelaient à notre hiérarchie pour leur dire « Écoutez, voilà des services qui sont vraiment utiles et il y aurait de quoi des solutions qui pourraient aider à l'échelon national. » Est-ce que toi, de ton côté, tu as une idée de l'œil que pose la hiérarchie, notre institution, sur ce que tu fais ?
Très peu, parce que pour le coup, je n'ai jamais eu de contact avec personne, ce qui se comprend. Hein. Mais je ne sais pas du tout s'ils voient ça d'un bon œil, que des enseignants... je suis encore en disponibilité, donc en soi, j'appartiens encore à l'éducation nationale. Il y a quelques années, ils nous avaient dit... Parce que donc, j'ai été enseignant, j'ai été ensuite quelques années conseiller TIS, maintenant c'est Erun. Si on m'avait dit, ben, je faisais un petit peu des projets comme ça pour le département. Donc si on m'avait dit, ben, ton boulot maintenant c'est de créer des outils pour qui seront gratuits dans toutes les écoles, j'aurais dit oui tout de suite. Donc malheureusement, c'est plus compliqué que ça, même pour eux, j'imagine hein, que c'est une grosse machine. Donc je pense que ce sera jamais possible, mais bon.
Eh ben, c'est la même réflexion que Gwenolé nous avait fait dans l'émission consacrée à EduMove, quand il disait « j'ai proposé ça et on m'a dit on va le mettre sur une clé, je crois qu'ils n'ont pas très bien compris le produit ». Bon, c'est pas forcément faux que la promotion des outils n'est pas fameuse. Bah, Le fait est que ça se termine bien pour toi, mais on en revient à l'idée que pour promouvoir quelque chose qui va servir à énormément d'enseignants, eh ben, il faut sortir de l'éducation nationale.
Et non, mais c'est sûr.
Et vous avez aussi un public francophone en général ou vous êtes vraiment très axé France, justement, l'éducation nationale ?
Alors, c'est nous, quand on pense à un outil, on le développe pour la France, c'est-à-dire qu'on est toujours sur les programmes français. Mmh. En revanche, comme on ne fait pas des manuels qui respectent strictement un programme, c'est plutôt des contenus plus libres à utiliser. Donc, du coup, on a quand même pas mal de monde en Suisse, Belgique, Canada, et puis beaucoup d'écoles à l'étranger, les écoles françaises, en fait, un peu dans tous les pays. Une fois, on s'est amusé, je crois, à compter les pays. Alors, des fois, c'est qu'une école, hein, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on s'est amusé, je crois qu'on avait atteint plus de 120 pays, donc ça faisait quand même quelque chose de fou, quoi. Ça nous amusait.
Mais écoute, est-ce que maintenant que nous sommes dans une situation un peu particulière, avec ce deuxième confinement, comment est-ce que tu vois le futur de mon école? Certes, dans un futur proche, c'est le perfectionnement des outils qui sont déjà là. Et est-ce que tu aurais une vision du futur dans un temps plus large?
Alors, pas forcément. On n'en est pas forcément à se poser ces questions pour le futur. On espère surtout que ça continuera et qu'on pourra continuer, qu'on sera encore là dans quelques années. Et j'ai de bon espoir que ce soit le cas. Donc voilà, maintenant on va essayer d'améliorer, comme tu disais, voilà, tous nos outils. On a toujours des... Alors j'ai ce problème-là, c'est que j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses. Alors je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, je m'éparpille souvent. C'est-à-dire que j'ai toujours... je pense à un autre projet quand je suis en train d'en faire un. Donc voilà, donc il y a des chances qu'on essaye de faire différentes choses, mais je ne sais pas forcément... en tête comme ça. Donc il y a le livre, là je disais, par exemple, donc ça c'est quelque chose de très différent, mais sinon déjà ce qu'on aimerait, c'est qu'on n'ait plus jamais aucun mail qui dise « ce serait intéressant que sur la lecture on puisse faire comme ça ». Donc si on arrive à satisfaire tout ça, et ben pour le coup sur la lecture on n'en est pas très loin, on n'a plus beaucoup de demandes, donc c'est bon signe.
Ah oui.
Écoute, c'est un beau projet quand même. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce dont va parler ton livre, ou est-ce que tu veux le garder en secret?
Non, il n'y a pas de secret. Alors, j'ai même un faux livre ici, si jamais. Ça s'appellerait Saga, et ce serait alors un livre pour l'école, c'est-à-dire on pourrait le lire... n'importe où, mais il a été pensé. On a fait des escape games, je ne sais pas si vous avez, enfin, si toi tu avais passé.
Ça, ouais.
Donc, et qui a combien fonctionné, puis on s'était beaucoup amusé à faire ça. Et donc, on va dire que c'est un peu un livre escape game dans le sens où c'est un livre qui arriverait avec une séquence pédagogique pour l'étudier en classe, ce serait plutôt CM. Et le but, en fait, ce sera de faire des choix, mais pas des choix un peu au hasard, mais plutôt des choix raisonnés. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre des indices dans le texte, qu'en fait, les questions qu'on va se poser en lisant le texte, les inférences qu'on va faire, elles vont servir à prendre les bonnes décisions. Il y a des énigmes aussi au milieu de ce livre-là. Donc voilà, on va essayer de faire comme un escape game littéraire. Je ne sais pas si ça existe, peut-être. Et en tout cas, moi, je me suis dit que j'aurais bien voulu faire ça dans une classe. Donc... on essaye de faire ça et puis on verra les retours qu'on a. Là maintenant, ce qui nous reste à faire, le livre est écrit et relu. On va essayer de le tester dans les classes. On avait fait ça pour les escape games. Alors d'une, pour moi, c'est l'occasion de retourner dans une classe, ce qui est sympa. Surtout que quand je pars, j'ai pas besoin de corriger, je vois pas de problème avec les parents, donc c'est idéal. J'ai juste le bon côté. Donc voilà, on va essayer de le tester en classe, voir si ça fonctionne. Mes premières testeuses, c'est mes filles. Si ça fonctionne bien, c'est déjà bon signe.
Tout à fait. Ça m'évoque quand même la grande catégorie des livres dont vous êtes le héros, qui parlera peut-être à certains, mais avec ce côté que j'aime bien, où on va aller piocher par les inférences pour réussir à trouver le bon choix à faire.
Je suis d'accord avec toi. Sur la forme, c'est un peu un livre dont on est le héros, parce que voilà, il y a des numéros de chapitres, etc. On va se référencer. Sauf que voilà, c'est pas, on va moins se laisser guider qu'on va devoir comprendre l'histoire pour faire les bons choix. C'est sur fond de mythologie nordique, de fantastique, que j'aime beaucoup. Le livre que j'adorais faire dans ma classe, c'était, je ne sais pas si tu connais, c'est de Mourleval, La rivière à l'envers. Je ne sais pas si ça parle. Et donc, c'est très fantastique. Donc, c'est un peu dans cet univers-là, un peu aventure. Donc,
d'accord.
En tout cas, je me suis fait plaisir.
Donc, je te laisserai mon adresse hein, pour la fin de l'émission. Il n'y aura pas de problème.
Tu es testeur, ça.
Ah ben écoute, non, là, il me dit mythologie nordique. Il me dit, Lecture de l'implicite, il me dit choix raisonné. Ouais, là, c'est séduisant.
Après, si ça se trouve, c'est raté, hein, ça je sais.
Oui, bien sûr, bien, tout à fait, on s'en doute. Hein. Ce serait dans la lignée de ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
Oui, mais un livre, peut-être que je ne sais pas faire. J'avais envie
peut-être,
d'essayer, mais.
Peut-être, voilà. Voilà.
Non, mais j'ai tout vraiment à tout, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant ouais, là-dessus. Hein. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Et bon, une question en plus sur le par rapport un petit peu à toute cette jungle, un petit peu de la tech qu'on appelle ça en ce moment là. Comment on se différencie, comment on s'en sort différemment des concurrents, parce que c'est vrai que en ce moment tout le monde un peu jungle joue un petit peu sur cette tech en ce moment.
Alors, on essaye de pas trop s'en préoccuper. Parce qu'on pense qu'on n'a pas forcément le même discours qu'eux, donc on ne touche pas forcément les... Alors si, on touche les mêmes personnes in fine, mais on ne les touche pas de la même manière. Donc, comment dire ? Nous, les outils qu'on a qui sont destinés aux élèves, Matero, Relecture, il n'y a pas vraiment d'équivalent, donc on n'est pas trop embêté. L'outil sur lequel il y a plus de concurrence, ça va être par exemple le petit bureau de mon école, les ENT, etc. Et pour le coup... cet outil, pour nous, il est simplement pour rendre service parce qu'il est, il est entièrement gratuit. Donc, du coup, on n'est pas en confrontation directe. On ne se dit pas comment on va pouvoir être moins cher qu'eux, pour quelles raisons. Donc, au final, on ne se préoccupe pas trop. On suit parce que moi, ça m'intéresse. Et puis, quand j'étais conseiller TIS, mon rôle, c'était un peu de faire de la veille aussi. Donc, j'aime bien connaître un peu l'état des outils actuels. Mais voilà, pour l'instant, non, ça ne nous pose pas trop de soucis. Si un jour des gros groupes arrivent et veulent faire la même chose que nous, bah, peut-être on sera bien embêté. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc,
Après, pour revenir et rebondir sur un aspect très pratique, mais très particulier du primaire, on est un marché, si on doit parler en tant qu'entreprise, on est un marché très éclaté et le gros avantage que va trouver mon école, c'est au niveau de la communauté éducative. Tu es parti de la base avec ton blog et donc tu as une aura de confiance et une véritable communauté qui peut te suivre, ce qu'une boîte sortie de nulle part ne pourra pas faire, même s'ils ont des moyens supplémentaires. On sait très bien que pour pénétrer le marché du primaire, c'est très compliqué parce qu'il faut parler à des milliers d'unités que sont les communes de France.
Non, mais complètement, complètement. Et c'est sûr, alors, c'était pas calculé, bien sûr. Quand j'ai commencé à créer mon blog, je me suis pas dit, dans 5 ans, j'aurais peut-être la possibilité de faire ça et ça. Mais au final, si j'avais voulu faire le choix, je pense qu'il n'y avait pas meilleure possibilité parce que ça s'est fait, en fait, naturellement. C'est-à-dire que on a grandi en même temps que les gens qui nous ont suivis. Et donc, c'est sûr que voilà, on ne s'est jamais posé la question de la communication tellement. Alors, on essaye de poster un peu sur les réseaux pour pas qu'on nous oublie, mais c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Et on a la chance surtout de, comme j'étais blogueur, j'ai la chance de rencontrer pas mal de blogueurs dans ma vie numérique. Et c'est eux qui nous ont beaucoup aidés et qui nous aident encore beaucoup aujourd'hui parce que on a la chance que quand ils aiment nos outils, ils en parlent. Sans qu'on ait besoin de leur demander ou de leur promettre quelque chose. Donc, c'est simplement, ça nous fait plaisir quand ça arrive. Je pense à Charivari et à bien d'autres. C'est ça qui nous a permis d'exister. Sans ça, on ne serait sûrement jamais sorti de notre petit trou, je ne sais pas.
Non, là, tu vois, le côté réseau social et côté positif du net qui manque un peu en ce moment, se ressort avec ton histoire et ça fait du bien. On en a besoin.
Eh ben, très bien. Alors moi, je peux dire une petite... Il manque un truc à ton site, hein, moncon-école.fr. Si tu vas dans les sites utiles, il en manque un.
Oh, bravo, voilà. Bravo. Oh, le petit placement.
Alors, site utile, il faudrait que je regarde parce que je pense que ça n'a pas été mis à jour depuis très longtemps. Donc, il faudrait que je mette à jour, en effet.
C'était pour la boutade.
Joli, non, bravo, joli Jeff, l'homme d'entreprise qui se cache derrière l'enseignant.
En tout cas, un grand merci, Laurent. En tout cas, moi, je découvre monécole.fr. C'est vraiment une mine. Hein. C'est des choses que nous, on aimerait voir dans le second degré. Tu vois, ce genre de plein de petits outils avec beaucoup de ludique, etc. C'est ce qui nous manque un peu de notre côté. Je sais pas si tu veux dire quelque chose.
Vas-y. Non, je vous remercie beaucoup parce que c'était très agréable. Et vous avez été très, très sympathique envers mon travail et notre travail. Donc c'était un plaisir.
Seb, tu as peut-être quelque chose à rajouter ?
Plaisir partagé.
En tout cas, si on veut en savoir un peu plus sur les réseaux, où est-ce qu'il faut se rendre, Laurent ?
Alors, le plus simple, c'est sur la page d'accueil de mon école, on y référence un peu tous nos outils. Et après, sur les réseaux, alors sur Twitter, c'est moi généralement qui gère ça. Donc, le nom n'est pas très simple en plus à retenir. C'est @orphismonécole. Et je pense que c'est ça aussi sur les autres. Sur les autres plateformes. J'utilise surtout Twitter, un petit peu Facebook et Instagram, parce qu'apparemment, il faut s'y mettre, mais j'y arrive moins. Mais voilà.
D'accord. La communauté enseignante est beaucoup là. Eh bien, très bien. Merci encore à toi. Et puis voilà. Si tu veux peut-être rajouter un truc, Seb.
Non, voilà. J'ai attendu cette émission, ça a été un très bon moment. J'ai le plaisir de rencontrer un ancien collègue, mais quelqu'un qui fait vraiment du bien. Donc bravo encore à toi, bon courage pour la suite, bon courage pour le bouquin. Et on va espérer voir ce qui va advenir bientôt. Jeff, et si on veut te contacter, toi ?
Comme d'habitude, sur Twitter, c'est le plus simple, Jeff8342. Voilà, et toi, Seb ?
Bon, si vous avez réussi à trouver Jeff, vous me trouverez sans problème, puisque c'est Stuteur, S-T-U-T-E-U-R. N'oubliez pas, il y a le site, il y a Facebook, il y a TikTok. Non, je plaisante.
En tout cas, ouais, vous nous retrouvez un peu partout, vous tapez les teachers sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez tout trouver, tout ça. Eh bien, merci encore à toi et au revoir à tous, en tout cas.
Au revoir, merci.
Au revoir.